L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM.
Voilà, c'est la dernière demi-heure de l'atelier numérique sur BFM. Tout à l'heure, vous retrouverez le crash test d'Antoine, bien sûr. On retrouvera le Silicon Carnet de Dominique Piotet depuis San Francisco, bien évidemment. Mais auparavant, c'est l'heure de notre passion selon Sanette, Jean Chambure. Nous allons parler de e-commerce et de e-marketing, tiens, pendant une dizaine de minutes.
Et oui, François, nous sommes 19 millions aujourd'hui, rendez-vous compte, 19 millions à avoir déjà effectué un achat en ligne. C'était les chiffres de l'Axel au deuxième trimestre 2007. Bref, le e-commerce porte très très bien.
Nous en faisons partie tous les deux.
Nous en faisons partie. Moi, j'arrête pas d'acheter, c'est effrayant. Depuis qu'Internet existe, je pensais que c'était un média gratuit. Je pensais qu'on pouvait regarder tout ce qu'on voulait, toutes les infos gratuites en ligne. C'est un peu vrai, mais on peut aussi acheter. Et ça peut faire parfois mal pour le porte-monnaie, donc il faut se calmer. Mais en même temps, il y a plein de choses passionnantes.
Votre banquier vous attend là, à la sortie du studio. Il n'est pas content.
Voilà, mais on va, je vais lui faire un site internet, vous allez voir, il va être content. Non, c'est génial, on peut acheter plein de choses, tout ça parce que, évidemment, on a le haut débit qui est très très fort en France. Il faut le rappeler qu'on a quand même une infrastructure qui est magnifique.
Qui a été le détonateur en fait.
Qui a été le détonateur, hein, je crois qu'il y a une grande cause de cette croissance annuelle de 40-50%, c'est quand même beaucoup l'infrastructure, le haut débit. Mais avec tout ça et au devant de tout ça, il y a aussi des interfaces très séduisantes, des processus de communication, de marketing, de vente en ligne qui sont de plus en plus efficaces. Et tout ça, ça repose sur des métiers que sont des métiers de e-commerce, que sont des métiers de e-commerçants, de e-marketeurs. Et finalement, après 7 ans de grand développement du e-commerce en France, eh bien plusieurs ouvrages arrivent sur le marché. C'est très intéressant parce que beaucoup de gens veulent travailler dans ce secteur-là. On voit que c'est un secteur florissant. Hein. Ça fait plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour la partie le commerce en ligne. Donc c'est, et puis ça augmente. Et voilà, faisons un point. C'était l'occasion, puisqu'à la rentrée, il y a des livres intéressants sur le e-marketing, le e-commerce. Je vous recommande un livre que j'ai parcouru, que j'ai trouvé très intéressant, qui s'appelle tout simplement e-marketing et e-commerce aux éditions Vibert. Livre bien charpenté, intéressant, bien analytique, avec plein de trucs. Non, franchement, c'est super. C'est avec Pascal Lano et avec Corinne Ancry qu'on va en parler, puisqu'il se trouve que ce sont les auteurs. Bonjour Pascal.
Ils sont avec nous en studio.
Ils sont avec nous.
Bonsoir.
Bonjour.
Et bonjour Pascal. Bonjour. Corinne, alors, ce livre, très intéressant, effectivement, publié donc aux éditions Vibert, a un objectif, au fond, de s'adresser principalement aux étudiants, principalement aux jeunes entrepreneurs. Quelle est votre cible? Parce qu'on le voit beaucoup, hein, il marche très fort.
Alors, c'est vrai que c'est un livre qui fonctionne très bien auprès des étudiants en école de commerce ou en master de e-commerce, mais avant tout, il est destiné aux dirigeants de PME, et aux responsables marketing à qui on confie justement un nouveau projet, enfin le projet de représenter l'offre d'une produit ou service d'une entreprise en ligne.
Ouais, parce qu'effectivement, là, on a des chiffres aussi qui touchent les grandes entreprises, on en parle souvent, qui sont sur le net, qui réussissent très bien sur le net, mais aussi les TPE, les PME ont une croissance très forte hein, sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, on est un patron de PME. Est-ce qu'il y a des secteurs principaux où aujourd'hui on ne peut pas ne pas être sur Internet, selon vous?
Oui, le loisir, la culture, le tourisme, les voyages, ouais. Clairement.
Ça fait déjà beaucoup, ouais.
Et les catégories qui sont en devenir, qui vont exploser dans les mois ou les années qui viennent, à votre avis?
Je voudrais d'abord répondre à la première la question précédente, si vous le permettez. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun secteur qui peut se permettre de ne pas être en ligne, déjà en termes de PME. Tout simplement.
Même quand on est industriel,
surtout quand on est industriel, c'est vrai qu'on a eu l'occasion avec Corinne de rencontrer des responsables marketing dans l'industrie lourde, hein, c'était pour vous dire, c'est pas très...
Vous êtes consultant l'année l'autre, hein,
ouais. Consultant pas signé, et formateur, et tout à fait. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, par exemple, que des industriels français, qui ont l'habitude d'être leaders sur leur marché, se sont laissés dépasser ou perdre des parts de marché parce qu'ils vont avoir une concurrence étrangère ou même française qui, elle, est présente en ligne, présente son offre et ses produits en ligne et décroche ainsi de nouveaux contrats. Ce qu'il faut savoir, là c'est l'alarme qui est donnée dans le livre aussi, c'est que les PME françaises, encore une fois, sont en retard par rapport aux PME anglaises, allemandes, scandinaves, italiennes et espagnol, et il faut savoir que...
Quand même,
ça fait plus alors voilà, ça, à chaque fois, c'est la même chose, c'est, on ne dit jamais rien tant qu'on dit anglais, scandinave et allemand, mais dès qu'on dit italien et espagnol, ça y est, on crie, on se dit, ah oui, on est en retard à ce point-là. Bah, c'est, oui, on est largement dépassé par tous nos voisins européens, qui eux sont, toutes les PME européennes, à plus de 70%, voire 80%, ont un site en ligne qui présente leur offre et leur service, alors que les PME françaises sont à la traîne avec une présence en ligne, on va dire, c'est 55-60% max.
Comment vous expliquez ça?
Pourquoi est-on autant
parce que
retard,
finalement, on a dit au débit, on l'a dit, le commerce en ligne marche bien.
Débit, en termes d'équipement, les Français avaient eu un peu de retard, et puis du jour au lendemain, on figure parmi quasiment les mieux équipés en Europe, je ne sais
peut-être
pas.
Peut-être une certaine habitude d'attendre de voir si ça marche ailleurs.
Une spécialité française d'être en retard pour finalement bien arriver. Moi, ça me fait souvent penser aux courses de Christine Aron, qui rate toujours ses départs et qui arrive malgré tout parmi les premières en bout de course au bout de 100 mètres. J'espère que les PME françaises sont potentiellement toutes des Christine Aron et qu'elles vont très rapidement figurer parmi la tête de liste.
Cela dit, on a rattrapé notre retard par rapport aux autres pays dans le domaine des connexions Internet.
Oui,
voilà,
là,
l'infrastructure est là. Très en retard.
En termes d'équipement, en termes
c'est
de
bien rattrapé.
La DSL est quand même, on est un des pays européens où la DSL coûte le moins cher, où les offres sont fortes.
Mmh, exactement.
Donc on a tous les outils pour ça.
Sur
le
territoire français. Voilà.
Oui. Pensez aux entreprises de suivre. D'ailleurs, c'est vrai que souvent, c'est ce qui vient de, ce sont des pratiques inter-entreprises qui sont ensuite appliquées aux particuliers. Là, pour Internet, c'est un peu l'inverse, en fait. C'est un peu les particuliers, le comportement des particuliers qui déteint après coup sur celui des entreprises et les PME françaises ont beaucoup à faire en la question. Il y a encore du travail à faire. Tant mieux.
Encore du travail à faire. Et puis, alors, évidemment, il y a quelque chose de extrêmement motivant pour les PME, c'est la place qu'on peut obtenir en termes de référencement sur Internet par rapport à des grands groupes. Avec un site bien fait, on peut très vite, avec des mots-clés, se retrouver avec une visibilité quasi équivalente à celle d'une grande entreprise. Alors, je voudrais, justement, avec cette petite bifurcation, revenir sur un point important de votre livre. Je trouve c'est toute la partie qui concerne la participation des internautes. Là, vous reprenez la règle des 4 P en marketing, hein, price, product, place et promotion. Et là, le 5e P, c'est participation, participation. Alors, pourquoi ça? On peut le comprendre avec le web 2.0, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions, etc. Et comment est-ce que vous illustrez ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vraiment la participation devient clé?
Bah c'est oui le comportement des internautes est au centre de tout au-delà même avant même le web 2.0 c'était déjà la clé en fait l'évolution des sites dépendait finalement de l'utilisation qui en était faite par les internautes. C'est l'internaute qui maintenant co-conçoit en fait les produits en ligne. On voit de plus en plus d'entreprises qui laissent le choix à leurs internautes de concevoir en ligne un produit. Ça peut être des sacs de luxe, ça peut être des jus de fruits, ça peut être même des voitures ou des lunettes ou des chaussures. Donc là quand on parlait des 4P, ne serait-ce que le produit, l'internaute peut concevoir en ligne son produit. Le prix aussi, l'internaute intervient à tous les niveaux, la distribution et même la promotion. On fait intervenir parfois, on se sert d'ailleurs des internautes pour faire la promotion d'un produit aussi. Quand on fait du buzz ou du viral, finalement, on se rend compte que l'internaute sert à tous les niveaux et vraiment au centre de ces 4P. Il est vraiment le 5e P.
On peut intervenir des blogs, on sollicite les internautes.
Beaucoup,
on leur demande leur avis sur les produits. On crée en fait de cette façon une relation privilégiée avec eux et on leur accorde une place que de toute façon ce média leur donne.
Voilà.
Donc après l'enjeu pour les marques c'est de faire avec et de se servir de cette nouvelle situation. Pour en tirer les avantages qu'il faut.
Les transformer en évangile aussi.
Voilà, en tout cas, merci à vous, Corinne Ancry et Pascal Lano, pour ces explications. Je rappelle, le titre de votre livre, c'est e-marketing et e-commerce, c'est publié chez Vuibert. Il y a beaucoup d'exemples aussi dans votre livre.
Oui.
Vous pourrez découvrir, voilà, concrètement, il y a la théorie, mais il y a des exemples et des best practices. Alors évidemment, tout ça, c'est génial, mais il faut qu'on puisse bien naviguer sur ces sites. Et ça tombe bien, François, parce qu'on a un autre livre dont on voulait parler dans cette rentrée riche en matière de réflexion marketing e-commerce. C'est un livre qui s'appelle tout simplement « Donne-moi ce que je veux ». Après tout, c'est un bon point de départ pour un commerçant. C'est publié grâce à Patricia Gallo-Lavallée, qui est avec nous, qui est l'auteur. Bonjour Patricia.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous, c'est un livre très différent, sous forme de guide, hein, avec une soixantaine de sites que vous décortiquez, que vous décryptez, avec des interviews de personnes, de chefs de projet Internet qui ont réalisé des sites intéressants. Il y en a plein qui méritent vraiment le détour. Alors, qu'est-ce qui a changé pour vous aujourd'hui en termes de navigation? On se permet plus de choses parce que les internautes sont davantage habitués à Internet?
Oui, avec certaines cibles. Mais c'était pas l'objectif du livre. L'objectif
D'accord.
du livre, pour moi, c'était que ça fait 7 ans que certains modèles de navigation sont utilisés et ils sont toujours mal implémentés. C'est-à-dire qu'on sait D'accord. toujours pas comment bien le faire. Un site internet, c'est comme un bâtiment. Et
ouais.
Vous avez des maisons faites sur plan, vous avez des maisons d'architectes, vous avez des immeubles à la Défense avec une galerie souterraine, et vous avez aussi des panneaux en construction. Heureusement, il n'y en a plus beaucoup.
Ouais.
Et il y a encore des menus standards qui sont mal utilisés. Lors d'un voyage en Amérique du Nord, je suis un peu allée faire Yankee contre Gaulois pour aller voir ce qui se passait là-bas, aller dans le monde chez les innovateurs pour voir si ça changeait. Parce que moi, j'en avais identifié plein d'autres, des modèles de navigation.
Mmh.
Et là-bas, pareil, même problématique, toujours les mêmes modèles de navigation. Je me suis dit que finalement, l'information, elle n'était pas donnée au bon moment, dans le bon format, à la bonne personne.
Ouais. Mais pour juste, est-ce qu'il y a des fondamentaux quand même, Patricia, par exemple, je sais pas, moi, la barre d'outils qui est plutôt horizontale, le fait qu'on peu de nombre de clics pour arriver à ce qu'on cherche, enfin ça, c'est des choses qu'on retrouve quand même beaucoup, non?
Oui, c'est vrai qu'un site bien fait, vous allez voir votre nombre de pages vues par utilisateur baisser.
D'accord. Ouais, ça, c'est un vrai ratio à tenir, dont il faut tenir compte, quoi.
Voilà. Maintenant, par rapport à certains produits, vous allez avoir besoin d'un bandeau horizontal qui va mener l'internaute un petit peu parmi les 4 points clés. Et le dernier point clé, c'est le lien de transformation. C'est souvent celui qu'il cherche et c'est souvent celui qui est le plus caché. C'est-à-dire s'inscrire, commander, acheter. Finalement, c'est ce qu'il cherche l'internaute. Hein. Si c'est un ami qui lui a rendu service, c'est ce qu'il vient chercher.
Ouais.
Et des informations pour le rassurer tout au long, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air de savoir qu'il y a des êtres humains derrière la souris et qu'ils ont besoin d'être rassurés, et que surtout pour donner leur numéro de carte bleue, pour donner leur numéro de téléphone, donc des messages explicites qui sont là pour les rassurer. Par exemple, un grand système de carte bleue, le message, le paiement en ligne, le message c'est vous êtes obligé de nous donner votre numéro de téléphone. Au lieu de dire pour... vous permettre, pour nous permettre de vous contacter si jamais on a un doute sur cette transaction, merci de nous donner votre numéro de téléphone. Ils mettent, vous êtes obligé de nous donner le numéro de téléphone.
Ce qui est plus internaute. Merci à vous, Patricia Gallo-Lavallée. C'est intéressant. Le guide, il s'appelle Donne-moi ce que je veux. Vous pouvez le trouver facilement sur Internet. Vous verrez des tas de menus de navigation assez amusants, notamment un site qui parle d'échecs avec un menu de navigation qui est tout en bas. Vous verrez, c'est assez rigolo.
Merci. Alors, vous restez avec nous. La suite de l'atelier est à fin. Ça sera dans un instant. Le crash test d'Antoine est presque prêt et on retrouvera aussi le Silicon Carnet avec Dominique Piotet depuis San Francisco. Joli programme. Donc, à tout de suite.